Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 37 concernant la prière. Certains vont être déçus en constatant que nous répétons un peu ce que nous avons déjà étudié. Mais votre déception ne va pas perdurer, surtout quand bientôt vous allez constater que Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit vont de plus en plus devenir pas seulement une réalité, mais une présence continue dans votre vie de tous les jours. Chers amis, lorsque vous avez ouvert votre cœur à Jésus-Christ, vous êtes devenu enfant de Dieu. Comme votre Père terrestre a donné la vie à votre corps, Dieu a maintenant donné la vie à votre âme et votre esprit. Il est votre Père spirituel. Puisque votre âme vivra toujours, Dieu est votre Père éternel. Ce nouveau rapport est plus profond, plus intime que tout autre rapport humain qui puisse exister. Faire sa connaissance est donc un des plus grands privilèges du chrétien. Vous apprendrez constamment les choses nouvelles de Dieu en lisant votre Bible. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir une profonde connaissance de la Bible pour commencer à l'apprécier. Dès l'instant où vous lui ouvrez votre cœur, oui, c'est important, eh bien, il va entrer dans votre cœur pour toujours. Dans sa sainte parole, il a dit « Je ne vous quitterai jamais, ni jamais ne vous abandonnerai ». Hébreux chapitre 13, verset 5. Il attend donc de faire votre connaissance. Et dès que vous apprendrez à apprécier sa présence, vous découvrirez qu'il est formidable, il est tendre, chaleureux et a un grand sens de l'humour. Vous pouvez supposer qu'il est impressionnant. Votre vieux jeu, peut-être, c'est ce que vous pensez qu'il est vieux jeu. Mais il ne l'est pas du tout. Au contraire, il est charmant, il n'est pas vieux jeu. Il est à la fois votre père et votre ami. Découvrez simplement comme il est merveilleux et la communion avec lui deviendra la joie de votre vie. Le nom que nous donnons à la communion intime avec Dieu, c'est bien entendu la prière. Vous avez tous compris que la prière, c'est quand on parle avec Dieu. Mais il ne faut pas confondre la prière avec ce que l'on voit au cinéma ou à la télévision. Non, voyez-vous, la prière n'est pas un rituel ni un exercice. C'est le moment où l'on partage ses idées et ses émotions avec le Père spirituel. Cela n'a rien de surnaturel. Vous allez comprendre comment j'explique le processus de la prière. Lorsque vous avez été sauvés, chers amis, vous avez ouvert votre cœur à Jésus-Christ, il y est entré, et si quelqu'un vous demandait « Où est Jésus-Christ en ce moment même ?», vous répondriez « Oh, il est dans mon cœur maintenant !» Oui. Mais considérez ce que cela signifie. Deux personnes vivent dans votre corps, vous et le Seigneur. La Bible décrit votre corps comme le temple de l'Esprit Saint. Et bien entendu, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, cela est clairement démontré. Donc, par l'Esprit Saint, nous pouvons vraiment dire « Jésus-Christ vient maintenant dans votre corps, aussi sûrement que vous. » Et ceci pour que Christ puisse vivre dans votre corps par la foi, disent les Saintes Écritures, et je crois dans Éphésiens chapitre 3, verset 17. Ou encore, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Selon Colossiens, chapitre 1, verset 27. Attention, je n'ai nullement l'impression que quelqu'un partage mon corps, direz-vous probablement. Vous vous demandez comment cela est possible. L'explication est très simple. Le Seigneur n'a pas de corps. Il n'y a rien de physique dans sa présence en vous. Il est esprit. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se matérialiser, évidemment. On l'a vu après la résurrection. La Bible est donc très claire dans certaines choses, c'est-à-dire, vous pouvez noter 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 45. Elle déclare que le Seigneur est vraiment cet esprit-là. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Cela signifie que vous ne pouvez ni le voir ni le toucher. Sa présence est inaccessible à vos cinq sens. Mais cela n'induit pas que vous ne pouvez pas l'apprécier. Vous le pourrez certainement par la foi. Voyez-vous, quand vous avez demandé à Jésus-Christ d'entrer dans votre cœur, avez-vous éprouvé quelque chose? Je veux dire par là, avez-vous eu la sensation physique que quelque chose entrait dans votre corps? Non, absolument pas, non. Donc, peut-être avez-vous éprouvé de l'émotion? Après tout, la paix avec Dieu n'est pas insignifiante, oh non! Et lorsque vos péchés sont pardonnés, un énorme fardeau est enlevé de votre esprit, vous allez certainement le ressentir, mais il est impossible de toucher et d'entendre le Seigneur, car, nous venons de le dire, il est esprit. Et tous les sens spirituels, y compris le Seigneur, sont donc au-delà de notre conscience. Lorsque je parle donc du cœur, je ne désigne pas ce muscle qui fait circuler le sang dans le corps. Et lorsque je parle du cœur, bien entendu, je désigne ce que vous induisez quand vous dites que vous aimez quelqu'un. Quand vous aimez quelqu'un de tout votre cœur, et c'est cette partie de votre être où vous ressentez les choses plutôt que d'en avoir conscience. Bien que vous ne puissiez pas voir ou avoir conscience de Jésus-Christ, lui, il a conscience de vous et de tout ce qui se passe dans votre esprit. Il voit chaque pensée de votre tête. Pourquoi cela ? Eh bien, les pensées sont de l'esprit. Et puisqu'il est esprit, tout ce qui se passe dans votre vie en pensée, eh bien, lui est totalement accessible. La Bible dit en effet, il discerne les pensées et les intentions du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12. Bien que vous ne puissiez pas regarder dans votre cœur pour voir le Seigneur, eh bien, il peut regarder votre esprit et il peut voir tout ce qui s'y passe. Si cela paraît effrayant au premier abord, il n'en sera pas de même lorsque vous découvrirez qu'il vous aide sans limite, même quand il vous voit parfois dans vos pires moments. Alors, comment puis-je connaître le Seigneur? Il est fascinant de penser que Jésus-Christ est beaucoup plus proche de nous que nos mains ou nos pieds. Cependant, nous ne pouvons pas lui parler directement. Il est plus proche de nous que notre propre souffle, mais nous ne le percevons pas comme nous percevons les autres. Comment devons-nous donc répondre à sa présence? Comment pouvons-nous l'apprécier? Nous le faisons par le moyen de notre imagination. Cela vous paraît insensé. Il n'en est absolument rien. L'imagination est un outil merveilleux. Au moyen de cette faculté stupéfiante, eh bien, l'homme peut se représenter les choses qui n'existent pas dans le monde physique. Cela signifie qu'il peut se représenter des choses dans son imagination avant qu'elles existent. C'est l'imagination qui nous permet d'indiquer les rivières, de construire de grands ponts et d'explorer l'espace. Donc, nous devons pouvoir voir ces choses avant de les faire. Cependant, l'usage créatif de l'imagination n'est pas son but principal. Sa fonction la plus noble est de donner une réalité à notre Seigneur invisible. Donc, c'est l'intention de Dieu que nous devions le représenter. Cela veut dire que nous devons représenter le Seigneur dans notre esprit pour le connaître ensuite par la foi. Cela n'a rien de fictif. Après tout, il vit en nous. L'Esprit de Dieu confirme cette vérité lorsque il l'a donc témoigné à notre propre esprit, selon la première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 24. Si nous sommes capables de nous représenter un parent vivant à l'autre bout du pays, eh bien nous pouvons nous représenter celui qui vit dans nos cœurs. C'est le rôle de l'imagination de nous représenter le Seigneur sur l'écran spirituel. Avec un peu d'entraînement, non seulement cela devient facile, mais à la longue, le Seigneur nous paraît aussi palpable que n'importe quelle autre personne. Aussi, cette démarche est-elle biblique? Bien entendu, tout à fait. Car la Bible dit que Moïse pouvait quitter l'Égypte sans craindre la fureur de Pharaon. Pourquoi? Car il voyait l'invisible, selon Hébreux chapitre 11, verset 27. Moïse a vu le Seigneur dans son imagination. Le roi David a eu la même démarche. Il a dit « Je voyais constamment le Seigneur ». Actes des Apôtres chapitre 2, verset 25. Le fait est que le moyen divinement ordonné de connaître le Seigneur est de se le représenter dans notre imagination et de l'apprécier. Il y a le dicton qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». On peut être tenté de penser que la prière est facile et naturelle. Il suffirait de se représenter le Seigneur sur l'écran de l'imagination et de lui parler tout simplement. Mais cela n'est pas aussi simple. Non pas qu'il soit difficile de parler avec le Seigneur, cela est facile, mais il n'est pas aisé de se forcer à le faire. En effet, nous vivons dans un corps physique et notre mode de vie est adapté à ce que nous voyons, touchons, entendons, goûtons et sentons. Mais la prière n'est pas physique. Elle n'a rien à voir avec notre mode de vie. Il est difficile de s'interrompre et de parler à quelqu'un que l'on ne peut ni voir ni entendre. C'est anormal. Donc, c'est en quelque sorte contraire à notre mode de vie. Et puisque nous ne pouvons pas contacter le Seigneur au moyen de ces cinq sens, qu'y a-t-il dans notre rapport avec Dieu, oui, qu'y a-t-il dans notre rapport avec Dieu qui puisse, chers amis, nous rappeler de lui parler? Rien, apparemment. Connaissez-vous, et on vient de le dire, ce vieux dicton qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». Eh bien, c'est ici que réside le problème de la prière. Nous devons nous discipliner pour parler avec le Seigneur. Il ne nous le rappelle pas. Aucune cloche va sonner. Aucune sensation ne submerge nos corps. Rien ne nous le rappelle. Donc, il nous incombe d'entreprendre, oui, carrément d'entreprendre cette démarche nous-mêmes. Le Seigneur a joué son rôle en rendant possible la communication. communion. Il vit même en nous. Mais, c'est là le problème, c'est à nous, évidemment, de persévérer pour développer la communion avec la foi. Donc, nous devons inclure Jésus-Christ dans la routine de nos vies quotidiennes. Où trouvons-nous Jésus-Christ dans le quotidien de nos vies? Nous suivons un cycle assez monotone. 3 repas par jour, le travail ensuite, et pour finir, le lit. Mais le Seigneur n'y joue aucun rôle si nous ne l'invitons pas. Nous devons faire une pause si nous voulons prier. C'est une interruption du cycle. Si l'on doit se forcer à faire une pause dans la routine, c'est toujours une interruption. La loi même du mouvement a tendance à interdire la prière. Une fois la journée commencée, nous n'aimons pas du tout même, nous arrêter pour n'importe quelle raison. Nous pensons que nous sommes indignes des interruptions. La prière est donc le grand intrus de nos vies. Elle interrompt nos plaisirs, nos projets, notre paresse, notre télévision, notre internet et tout le reste. Est-ce possible de surmonter cet élément important de la prière? Eh bien oui, il existe un moyen. Je voudrais vous parler d'un certain frère Lovrance, un moine célèbre en son temps. Il a fait une découverte qui lui a permis de surmonter la nature importune de la prière. Quelle était cette découverte? Eh bien, c'est le plaisir d'être dans la présence de Jésus-Christ. Sa vie, croyez-moi, a été tellement changée par sa communion avec son Seigneur qui vivait carrément en lui, qu'il a suscité l'intérêt des gens aux quatre coins de l'Europe. Et voici comment cela est arrivé. Frère Lovrance occupait l'emploi le plus misérable du monastère. Il était chargé de nettoyer et de récurer la batterie de cuisine. C'est pas drôle. Il haïssait ce travail, et je le comprends. Mais un jour, par hasard, il a trouvé quelque chose qui a totalement tout changé. Il était en train de se plaindre au Seigneur lorsque il s'est mis à imaginer le Seigneur debout, tout près de lui, écoutant sa plainte. Il n'était pas naturel de penser que le Seigneur accomplissait ce travail avec lui. Mais, peu de temps après, il en riait avec le Seigneur. Donc, il a fini par attendre impatiemment cette tâche, car il y prenait plaisir dans le Seigneur. Et afin, oui, on peut dire, pour finir, tous ces travaux détestables s'étaient transformés en quelque sorte en une partie de plaisir. L'émotion qu'il éprouvait à les exécuter avec le Seigneur est devenue une obsession. Et là était vraiment son secret. Il va sans dire que la sensation de corvée a totalement disparu de la vie de ce moine. Il était transformé. Un grand rayonnement avait remplacé son indignation. Il avait développé la faculté d'imaginer le Seigneur et, en conséquence, sa vie a été tout à fait modifiée. Partout en Europe, on parlait du rayonnement et de la joie de ce moine. La royauté chrétienne, attirée par ses oui-dire, est venue de loin pour le voir. Ses membres ont voulu apprendre le secret de sa paix rayonnante. Et lorsqu'on lui a demandé quel était son secret, il a raconté comment il avait appris à se représenter la présence du Seigneur Jésus-Christ et à tout faire avec lui. La prière n'était donc plus une interruption dans son mode de vie, car il était constamment avec le Seigneur. Ce cher frère, Lovrance, exerce toujours une influence sur des vies par l'intermédiaire du Seigneur Jésus-Christ, son compagnon. Sa vie est donc l'exemple même de ce que voulait dire l'apôtre Paul quand il a écrit « Priez sans relâche ». Il n'était pas question de s'isoler pour être seul avec Jésus-Christ. Frère Lovrance passait ses journées à tout faire avec lui. Jésus-Christ était le centre de sa vie. Et pour l'apôtre Paul, la prière continuelle constitue la manière de pratiquer la présence de Christ. Lorsque nous en prenons conscience, celui qui nous a créés ne partage plus seulement notre corps, mais aussi notre vie quotidienne. Et cela nous émeut. En effet, jamais plus nous ne sommes les mêmes. Cela peut sembler choquant quand le Seigneur ne se contente pas d'être seulement un spectateur, mais qu'il prenne part à ce que nous faisons. Que nous en ayons conscience ou non, eh bien le Seigneur participe à tous les événements qui jalonnent nos vies. Cela peut paraître effrayant de nous rendre compte que le Dieu éternel est si proche de nous, mais notre inquiétude s'évanouit dès que nous découvrons combien il est grand. Dans la vie quotidienne, le Seigneur n'est pas seulement spectateur, mais il prend part à tout ce que nous faisons, au marché, à l'église, les loisirs, au travail, la vie sociale, à la maison. Jésus-Christ devient carrément le centre de notre vie spirituelle. Le Seigneur, vous le voyez, il est doux et il est clément. Il désire le meilleur pour nous. Donc, peu importe que nous nous comportions mal de temps en temps, il est impossible de craindre quelqu'un qui est toujours prêt à nous pardonner. Il y a quelque chose d'autre qui est merveilleux dans le Seigneur. Il ne change jamais. Une fois qu'il nous aime, sa passion pour nous demeure inchangée. Son amour est constant. Il ne se met jamais en colère, car il éprouve une sympathie totale pour nos faiblesses. Ce monde n'a jamais connu quelqu'un de si merveilleux, si patient et si constant. Il est la personne la plus paisible qu'on puisse imaginer. L'expérience de connaître Jésus-Christ est merveilleuse. Il cherche sans arrêt des moyens de promouvoir au mieux vos intérêts. Oui, jamais il ne porte la moindre condamnation envers vous. Croyez-moi, il est un véritable ami. Vous ne percevez pas le moindre changement dans ses sentiments envers vous. Oui, il est le plus grand ami que l'on puisse imaginer avoir. Voyons donc ce que signifie que le cœur de Dieu qui brûle toujours pour nous. Son humeur ne varie pas au gré de votre caractère capricieux. Il s'est engagé envers vous. Qu'y a-t-il à craindre d'un tel Dieu ? Sa présence est un pur plaisir. Loin d'être un rabat-joie, comme beaucoup de gens le pensent, sa présence est très dynamisante. C'est pas un rabat-joie. Quand vous l'avez dans votre cœur et que vous partagez tout avec lui, eh bien la vie devient carrément une aventure glorieuse. Et oui, c'est cela. Le christianisme, c'est cela, la communion avec un ami qui nous a tant aimés, qu'il est mort pour nous. Mais comment trouvons-nous cette communion exactement? Eh bien, la réponse simple, nous le rencontrons dans le lieu secret. Oui, tout chrétien devrait avoir un lieu secret. Cela vous semble peut-être bizarre. Y a-t-il dans votre imagination un endroit où vous rencontrez le Seigneur? Avez-vous remarqué certaines personnes qui même ferment les yeux quand elles prient? Savez-vous pourquoi? Elles ne font pas que s'isoler. Elles utilisent leur imagination pour se représenter le Seigneur. Elles se voient en train de lui parler ou dans le lieu secret, évidemment. L'endroit existe, par exemple David, le psalmiste d'Israël, le connaissait bien. Il l'a exprimé ainsi. Il a dit « Toi qui habites au secret du Très-Haut, toi qui loges à l'ombre de l'Éternel. » Psaume 91, verset 1. Commencez donc à considérer cette pièce dans votre esprit, n'est-ce pas? C'est la pièce la plus importante de votre vie, car personne n'y entre sauf vous et Jésus-Christ. Et c'est ici que vous louez le Seigneur. C'est la pièce de votre rendez-vous. Vous vous imaginez vous-même avec le Seigneur ensemble sur l'écran de votre imagination. Le privilège de cette pièce, c'est qu'elle est privée. Alléluia. Vous pouvez vous discipliner à l'endroit par lequel vous pouvez entrer dans cette pièce. Fermez donc la porte et laissez le monde au dehors. Avec un peu d'entraînement, vous parviendrez à vous isoler du bruit environnant où que vous soyez et à être tout à fait seul avec le Seigneur. Vous pouvez, par exemple, être dans la salle d'attente d'un médecin en présence d'autres personnes et passer le temps à converser avec le Seigneur dans le lieu secret. Cela devient même très agréable. Si le fait de l'imaginer sous les traits d'un être humain peut vous aider, allez-y. Cela n'a aucune importance, mais vous pouvez aussi bien ne rien voir et ressentir une vague présence. Tout ce que vous rend véritable lui convient. Tout ce qui peut vous aider va forcément lui être agréable. Et quand je dis que j'imagine, je veux dire que je ressens sa présence. Parfois, je vois un visage et je le regarde dans les yeux. Je veux ainsi expliquer qu'il n'existe pas de moyen unique de se le représenter. Le but de venir dans ce lieu, c'est de l'apprécier. Lorsque vous découvrez à quel point il est aimable, vous passez beaucoup de temps dans cette pièce. L'idée de vous retrouver face à face avec celui qui vous a créé est a priori effrayante, mais il n'en est rien, car il brûle d'entrer en communion avec vous. Le Seigneur n'est pas un gros bonnet. Il n'y a rien de vieux jeu en lui comme vous pensez parfois quant à sa grandeur et à sa majesté. N'oubliez pas qu'il a mis de côté tout cela, absolument, et qu'il est allé à la croix pour vous et pour moi. Il vous préfère tel que vous êtes à toutes les richesses du ciel et du monde. Vous pouvez donc vous détendre. Vous êtes en présence de votre meilleur ami. Personne ne vous aime plus que lui. Ne vous inquiétez pas s'il voit tout ce qui se passe dans votre vie. Il voit vos pensées et malgré tout, il vous aime beaucoup, quelles que soient les circonstances. Et quand vous parlez avec lui, soyez donc tout simplement vous-même. Il vous connaît beaucoup mieux que vous ne le connaissez, alors pourquoi faire semblant d'être différent ? C'est tout à fait inutile. Il vous faudra peu de temps pour vous accoutumer à l'idée que le Dieu éternel est vraiment devenu votre ami. Et c'est ainsi qu'il vous veut. Il brûle que vous veniez et que vous passiez votre temps avec lui. Et puisque c'est tout à fait par la foi, il n'y aura aucune communion si vous ne prenez pas l'initiative de cultiver sa présence dans votre vie. En conséquence, ne soyez pas effrayés par sa majesté. Vous êtes simplement son fils, sa fille, et un jour, tout vous appartiendra. Il est votre père, et il n'y a rien dont vous ne puissiez discuter avec lui. Tout cela vous rend-il impatient de commencer à l'apprécier dans votre lieu secret ? Oui, bien sûr. Et lorsque vous anticipez l'amitié, on peut dire fantastique, j'aimerais mieux le mot peut-être merveilleux, qui vous attend, ne pensez-vous pas que la prière doit avoir une importance primordiale dans votre vie ? Donc, la priorité, c'est la prière. Voyez-vous cette image du Seigneur ? Que fait-il ? Ce dont nous venons de discuter. Lorsque la vie devenait trop trépitante pour lui, il prenait du temps à l'écart, souvenez-vous, pour être seul avec son Père Céleste. Comme nous, il avait besoin de repos, seul avec celui qui le connaissait et comprenait toutes ses émotions. Bien qu'il sache qu'il vivait par la volonté du Père et que ses jours étaient jalonnés d'actes merveilleux, cela était insuffisant. Il désirait encore davantage d'intimité avec son Père. Il en est de même pour nous. Un chrétien peut être très occupé à prêcher, à témoigner, à étudier, à assister aux réunions, mais son âme demeure insatisfaite. Ce dont il a le plus besoin, c'est pas seulement de prêcher, mais c'est d'intimité, l'intimité avec Jésus-Christ. Et certains ne reconnaissent pas ce besoin, c'est dommage. Cependant, s'il est négligé, il privera le chrétien de sa joie et influencera tout ce qu'il tentera de faire. Voyez-vous, vous pouvez taxer ces propos de rêverie, mais le fait est que la possibilité de donner une réalité au Seigneur est le but dominant de l'imagination. Vous pouvez l'apprécier à tout moment, simplement le représenter sur l'écran de votre imagination et lui parler. Avant de passer au chapitre suivant, pourquoi ne pas faire une tentative ? Installez-vous dans un endroit calme où vous pouvez vous détendre. Regardez une image de Jésus-Christ pendant un moment. Et puis, fermez les yeux et parlez-lui dans le lieu secret de votre imagination. Pelotonnez-vous contre lui ? Pourquoi pas ? Soyez tendre. Considérez qu'il est beaucoup plus proche de vous que votre propre cœur. Et lorsque vous saurez à quel point il est désireux de satisfaire les désirs les plus intimes de votre âme, que penserez-vous devoir faire qui soit plus important que de le lui laisser faire, de le lui laisser voir? Oui, croyez-moi, vous pouvez tout lui apporter. Et cette question induit l'importance de la prière plus que jamais. Chers amis, pour beaucoup, la prière s'apparente à une liste d'emplettes de requêtes à Dieu dans l'espoir qu'il écoutera et répondra. La prière n'est pas juste simplement de parler à Dieu, mais c'est parler avec Dieu. C'est une conversation à double sens et une coopération avec Dieu, amenant à connaître Dieu pour que nous puissions le faire connaître à notre tour. Nombre de chrétiens ne savent pas véritablement comment prier. Et à l'instar des premiers disciples, nous avons tous besoin de dire « Ô Seigneur, enseigne-nous, enseigne-moi à prier ». Luc chapitre 11, verset 1. L'ensemble composant la prière peut être divisé en quatre sections principales. Je répète, l'ensemble qui compose la prière peut être divisé en quatre sections principales. Et ils sont classés, pour plus de facilité, sous les lettres A, C, G, S. A pour adoration, C pour confession, G pour action de grâce et S pour supplication. Chacune des quatre sections peut se définir de façon suivante. L'adoration, c'est la louange de Dieu pour ce qu'il est, pour sa grandeur, pour sa bonté, son amour, etc. Saint Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. L'adoration, c'est la reconnaissance de tout ce qu'il a fait dans la création, la rédemption et le quotidien, etc. Selon Proverbe, chapitre 3, verset 6. C'est donc prier et l'aimer de tout notre être. Psaume 150. La confession, c'est admettre et se repentir de ses propres péchés et demander le pardon, selon la première épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 9. L'action de grâce, c'est la gratuité, ou plutôt la gratitude qui est exprimée pour tout ce que Dieu a fait pour nous et pour les autres. Je répète, donc l'action de grâce, c'est la gratitude qui est exprimée pour tout ce que Dieu a fait pour nous et les autres, et pour les prières exaucées, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. La supplication, eh bien la supplication, c'est demander à Dieu de pourvoir à nos besoins et de nous aider. C'est aussi demander à Dieu de combler les besoins de tierces personnes, donc l'intercession. Philippiens chapitre 4, verset 6. Donc, nous avons bien vu ensemble que l'adoration, c'est la louange de Dieu pour ce qu'il est, pour sa grandeur, pour sa bonté, son amour. L'adoration, c'est la connaissance de tout ce qu'il a fait dans la création, la rédemption, le quotidien, etc. C'est de prier et l'aimer vraiment de tout notre être. Et la confession, c'est admettre et se repentir carrément de ses propres péchés et de demander le pardon. L'action de grâce, c'est la gratitude exprimée pour tout ce que Dieu a fait pour nous et les autres et pour les prières exaucées. La supplication, c'est demander à Dieu de pourvoir à nos besoins et de nous aider. C'est aussi demander à Dieu de combler les besoins de tierces personnes, donc l'intercession. Vous l'avez bien compris, combien c'est important. Voyez-vous, un régime saint est toujours constitué d'un équilibre entre les différents besoins. De même, il devrait y avoir dans nos vies de prière un équilibre des quatre sections citées tout à l'heure. Nous ne devrions pas demander uniquement pour notre propre compte. Ainsi, dans le Notre Père, il existe un équilibre entre l'adoration, la confession et la supplication, selon saint Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Nous allons poursuivre par des principes, pas des règles rigides et abruptes qui, si elles sont suivies, amélioreront grandement l'efficacité de votre vie de prière. Notez Jacques chapitre 5 verset 16. Donc, ne vous laissez pas enfermer dans ce système de lois établies ou de formules, mais laissez plutôt l'Esprit Saint de Dieu guider ses pensées et ses suggestions et les appliquer à votre vie de prière selon sa volonté. Ça, c'est important, croyez-moi. Je vous prie de noter et de relire dans la prière Saint Luc chapitre 11 verset 1 à 4 et Saint Matthieu chapitre 6 verset 9 à 13. Je répète, Luc 11, 1 à 4 et Matthieu 6 verset 9 à 13. Et vous remarquerez qu'il n'a jamais été fait mention de cette prière dans la Bible jusqu'à ce que Jésus-Christ ou ses disciples l'aient dite eux-mêmes. L'explication réside en ces paroles. Lorsque vous priez, dites, ou vous donc priez ainsi, ou encore il est dit priez de cette façon. Cela étant, je répète, vous donc priez ainsi, est-il dit dans la Bible, ou il est encore dit priez de cette façon. Et cela étant, Jésus-Christ n'avait pas du tout l'intention que cette prière soit répétée mot pour mot, automatiquement, comme un moulin de prière. Elle constitue la trame de base d'une liste de points de la prière, des listes précises de la prière, et non pas simplement une prière en soi répétée chaque jour. Le récit de saint Luc contient 5 demandes très brèves et celui de saint Matthieu en contient 6. Notre Jésus a donné ce modèle de prière à l'ensemble de ses disciples pour les moments de prière commune. Dieu étant mon Père, il est votre Père lorsque vous priez ensemble. Jésus-Christ encourageait ses disciples à prier ensemble et à s'accorder dans la prière. Saint Matthieu chapitre 18, versets 19 à 20. Père, ici Jésus-Christ montre que nous venons dans nos prières comme un enfant vient vers un père affectueux. S'il est vrai qu'il est le Seigneur Tout-Puissant, il n'est jamais loin ou indifférent à nos besoins. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Le Notre Père ne commence donc pas par « Ô Dieu puissant, éternel et saint des saints », mais par « Notre Père ». Ou, on peut dire « par Notre Père », excusez-moi, « qui est aux cieux ». Qui est aux cieux. Ce n'est pas parce qu'il est notre Père que nous devons le traiter à la légère, ou même lui manquer de respect, il manquerait plus que ça. Il est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Il règne sur tout. Il est avant tout. Il est avant tout aussi le Seigneur. Trop de familiarité peut générer carrément le mépris. Évitons cela à tout prix. L'équilibre obtenu par l'appellation notre Père et la connaissance qu'il règne dans les cieux et suscite donc le respect mêlé de crainte. La crainte, c'est pas la peur. Ainsi que la sensation de sa proximité, de son amour et de ses soins. Ensuite, que ton nom soit sanctifié. Le Saint-Nom de Dieu doit être respecté, honoré et traité saintement. Il existe un nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou plie, que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur, et ceci à la gloire de Dieu le Père. Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. Il n'est pas étonnant que le troisième commandement interdise au peuple de prononcer le nom du Seigneur notre Dieu en vain, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom en vain. Exode, chapitre 20, verset 7. Voyez, il faut prendre cela très au sérieux. Le nom de Dieu doit donc être imploré et il doit être sanctifié et adoré. Apocalypse, chapitre 4, versets 8 à 11. Toujours Apocalypse, chapitre 5, versets 8 à 14. Et encore Apocalypse, chapitre 19, versets 6 et 7. Ensuite, nous avons « Que ton règne vienne ». Eh bien oui, le dessein de Dieu est d'installer son royaume sur la terre, là où il est reconnu comme étant le Seigneur et où à chacun ou chacun de nous le sert et lui rend le culte. Donc, il est, vous l'avez compris, le roi des véritables croyants et les véritables croyants sont ses esclaves, pas dans le sens esclave, vous l'avez compris. Et son royaume se situe là où il est ainsi reconnu. Donc, d'une certaine façon, le royaume de Dieu est déjà venu et là où des chrétiens le servent, où des chrétiens l'aiment, l'honorent et l'adorent, réside donc une partie de son royaume. Et d'une autre façon, il n'est pas encore venu, puisse-t-il, par contre, venir prochainement dans toute sa plénitude. Nous devons intercéder dans ce but-là. Ensuite, nous avons que ta volonté soit faite. Quel bel endroit serait le monde si la volonté de Dieu était parfaitement suivie sur la terre. Et quel bel endroit serait l'Église si sa volonté était totalement accomplie dans son corps. Nous avons besoin d'intercéder pour que la volonté de Dieu soit faite, pas partiellement, mais en totalité et à la perfection, non seulement sa volonté permissive, mais aussi sa volonté absolue. Sur la terre comme au ciel, oui, on a dit que ta volonté soit faite, maintenant c'est sur la terre comme au ciel. Dans les cieux, nous voyons que la volonté de Dieu est parfaitement accomplie. Lorsque Satan et ses anges ont péché et se sont rebellés contre Dieu, ils ont été éjectés, jetés hors des lieux célestes, car il n'y a pas de place pour le péché, pas de place pour la rébellion ou toute autre infraction à la volonté et au dessein parfait de Dieu. La sainteté de Dieu peut donc demeurer dans les cieux, maintenant pour toujours. Apocalypse chapitre 21, versets 7 à 8 et 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. Donc, nous devons intercéder pour que la volonté de Dieu soit accomplie sur la terre aussi parfaitement qu'au ciel. Et cette prière, elle peut commencer à être exaucée déjà dans ma vie et puis dans la vie de l'Église en général avant qu'elle soit exaucée sur la terre tout entière. Ensuite, nous avons « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Dieu a merveilleusement promis de subvenir à tous nos besoins, selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34, ainsi que Philippiens, chapitre 4, verset 19. Il nous a aussi dit de demander. Et en fait, la parole de Dieu, elle nous enseigne que nous ne recevons pas pour l'unique raison que nous ne demandons pas. Jacques, chapitre 4, verset 2. Ainsi, Jésus-Christ enseignait à ses disciples à implorer, souvenez-vous, à demander ce dont ils avaient besoin. Dieu n'a pas promis de subvenir à nos besoins pour des années à l'avance, mais il nous donnera notre pain quotidien, jour après jour, chaque approvisionnement quotidien suffisant à ce jour. Saint Matthieu, chapitre 6, versets 33 et 34, ainsi que Exode, très important, chapitre 16, versets 11 à 30. Ensuite, nous avons « Pardonne-nous nos offenses ». Ça, c'est la prière de confession. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Dieu écoute et réponde à nos prières si nous refusons de nous confesser et de renoncer surtout à nos péchés. En réalité, il a dit qu'il ne répondra pas si nous ne voulons pas renoncer à nos péchés. Là, vous pouvez noter Psaume, chapitre 66, verset 18, ainsi que Proverbe, chapitre 28, versets 9 et 13. Mais voyez-vous, si nous nous repentons et si nous confessons nos péchés, notre péché, croyez-moi, Dieu est fidèle et juste, car il nous pardonnera et il nous purifiera de toute iniquité, selon la première épître de saint Jean, chapitre 1, versets 7 à 9. Ensuite vient « Comme nous pardonnons aussi, avez-vous entendu ?» Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça, certains d'entre nous ont de la peine à le faire. Non seulement nous devons nous repentir, vous l'avez compris, et confesser nos péchés afin d'être pardonnés, mais nous devons avant tout pardonner aux autres. Ça, c'est une autre paire de manches. Notez saint Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24, ainsi que le chapitre 6, versets 14 à 15, ainsi que l'évangile de saint Marc, chapitre 11, versets 25 et 26. Chers amis, notez bien que nous, tous ceux qui nous ont offensés et au passé, nous pardonnons à nos débiteurs. Par conséquent, nous pouvons dès maintenant déjà demander à Dieu de nous pardonner. Si Dieu nous a tant pardonné, de quel droit, je vous le demande, refuserions-nous de pardonner aux autres, que ce soit dans le passé ou que ce soit au présent, pour tous les torts, pour les comparer donc à des choses telles que il y a des torts petits, mais il y a des torts grands. Nous devons tout pardonner, tout sur ce qui nous accuse, sur le mal qui nous a peut-être été causé. Eh bien, nous devons pardonner. Saint Matthieu, chapitre 18, versets 23 à 25. Et faisons cela, chers amis. Pardonnons, tournons la page. ne ressassons pas toujours les choses du passé, ne faisons pas comme nos chères vaches qui sont obligées de ruminer, ne ruminons pas toujours le passé, s'il vous plaît. Et ensuite, et ne nous soumets pas en tentation. C'est la prière pour que Dieu ne permette pas que nous succombions à la tentation. Nous serons tous éprouvés, ça c'est clair. Et nous serons tous tentés. Mais nous ne devons pas pécher, nous ne sommes pas forcés à pécher. Christ a été tenté de toutes les manières dont nous le sommes, mais sans jamais pécher. Hébreux chapitre 4, verset 15. Dieu ne nous pousse pas du tout à pécher. La tentation de pécher vient du diable, ne vient pas de Dieu. Elle vient du diable ouvrant par la chair, par notre chair et par nos désirs, parfois insensés, une porte. Jacques chapitre 1, verset 12 à 15. Il est vrai que Dieu nous éprouve. Il éprouve et teste notre foi, pas pour son plaisir. Il teste notre caractère, nos vies, etc. Le diable, lui, il nous éprouve dans le sens mauvais. Il nous tente. Oui, il nous tente. Et il nous attire carrément vers le péché. C'est encore autre chose que simplement nous éprouver. Nous avons donc besoin, chers amis, de prier pour que, en cas de tentation, nous ayons la force de résister. Je crois qu'il faudrait, ce ne serait pas un péché, de revoir cela, parce que c'est important. Et ne nous soumets pas en tentation. Ça ne veut pas dire qu'il désire que nous soyons tentés. Ça, c'est la prière pour que Dieu ne permette pas que nous succombions, à la tentation. Nous serons donc tous éprouvés, je le répète, et nous serons tous tentés. Mais nous ne devons pas absolument commettre le péché. Christ a été tenté de toutes les manières dont nous le sommes, je le redis, mais sans avoir jamais péché. Dieu ne nous pousse pas à pécher. La tentation de pécher, elle ne vient pas de Dieu, elle vient du diable, ouvrant par la chair notre chair et par nos désirs souvent insensés une porte. Dieu, lui, il nous éprouve, c'est vrai. Il éprouve et teste notre foi, notre caractère, ainsi que nos vies. Par contre, le diable, lui, il nous tente, et comment? En nous attirant carrément vers le péché. Ça, c'est tout autre chose. Donc, nous avons besoin de prier pour que, en cas de tentation, nous puissions avoir la force de résister. Seul Dieu, croyez-moi, peut nous donner cette force nécessaire pour résister. Mais il est dit ensuite, délivre-nous. Mais délivre-nous, ça sauve. Ça veut dire sauve-nous. Je répète, mais délivre-nous qui veut dire carrément, sauve-nous du mal, s'il te plaît, Seigneur. Sauve-moi du mal. Ça, c'est une prière pour la délivrance qui implore Dieu de nous sauver ou de nous libérer des puissances des ténèbres, des puissances du diable et de nous protéger des forces démoniaques. Ainsi, nous lui resterons fidèles et nous l'aiderons à accomplir la prière que sa volonté, sa sainte volonté soit faite sur la terre et dans nos vies comme elle est faite au ciel. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour tous les siècles des siècles. Ça se termine là, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et ensuite, il est dit Amen. Le Notre Père se termine donc sur un accent de louange, un accent d'adoration, rendant carrément gloire au seul envers lequel nous sommes redevables. Je répète, au seul envers lequel nous sommes tous redevables. Ainsi, nous constatons que différents types de prières sont illustrés, vous l'avez bien compris, dans Notre Père. Nous avons le culte, la louange et l'adoration. Nous avons l'intercession, la supplication, la confession, le repentir et nous avons le pardon. Ensuite, pour terminer, nous avons, heureusement, alléluia, nous avons la délivrance. Chers amis, puisse le Seigneur nous permettre de prier dans ce sens, et ceci de tout notre cœur. Oui, de tout notre cœur. Croyez-moi, cela est important.